Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà, de retour ici en direct à l'hôtel du département à Versailles. On est ravis d'être avec vous pour partager cette matinale autour de l'OFS des Yvelines, je rappelle, l'Office foncier solidaire. J'ai eu le plaisir de recevoir d'ailleurs son président Olivier Lebrun tout à l'heure. On va justement examiner et parcourir la planète de la construction de logements avec vous, Marc-Antoine Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur Île-de-France pour Eiffage Immobilier. Dans un premier temps, j'ai envie de vous poser cette question pour le peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas. Eiffage Immobilier, c'est qui, c'est quoi ?
Alors Eiffage Immobilier, c'est l'un des métiers du groupe Eiffage. Eiffage, il y a quatre branches. Hein. Eiffage Concession, Eiffage Énergie Service, Eiffage Infrastructure et Eiffage Construction. Et Eiffage Immobilier appartient à cette branche. Et nous avons une singularité chez Eiffage, c'est que nous sommes aménageurs, promoteurs et constructeurs. C'est un modèle qui est unique et qui fait de notre groupe et de nos métiers vraiment une vraie différence par rapport à la concurrence. On s'inscrit à la fois sur du temps long avec l'aménagement et des temps beaucoup plus courts avec la promotion, et on garantit nos constructions avec nos entreprises de construction.
En fait, vous avez intégré l'ensemble de des filières métiers.
Exactement, on intervient
de A jusqu'à Z.
Voilà, toutes les facettes et tous les maillons de la chaîne de l'immobilier.
C'est vrai qu'en termes de garantie de construction, ouais, et de qualité, votre réputation n'est plus à faire puisque elle est tout à fait effective. Et d'ailleurs, votre obligation finalement même de résultat est très engagée puisque vous partez de l'aménagement justement jusqu'à la livraison de l'immeuble, voire même jusqu'à la vente à l'unité des appartements que vous construisez. Je pense que c'est un modèle qui résiste bien d'ailleurs.
C'est un modèle très résilient dans la crise que nous connaissons.
Et justement dans la crise, c'est là que vous voyez votre modèle finalement a très bien résisté.
Alors il est challengé comme tout le monde.
Bien sûr,
oui, c'est évident, mais avec le coût de l'argent qui a largement augmenté, les aménageurs se retrouvent confrontés vraiment à la gestion du temps, avec les projets qui s'allongent, les charges foncières qui sont difficilement soutenables. Quand on se positionne sur des fonciers très en amont, hein, le temps de l'aménagement, ça peut être 10 ans, et quand on traverse une crise, ça peut être 15 ans. Donc il faut trouver des leviers pour...
Justement, cette crise, vous la subissez bien sûr comme tous les acteurs de la filière. Vous êtes confiant?
On a depuis quelques semaines, je dirais quelques mois, l'été, avec le mois de septembre, quelques signaux positifs. Alors j'aurais une tendance à la prudence par rapport à ces signaux positifs que sont le retour de quelques réservataires dans les bulles de vente. On a noté une augmentation de nos réservations sur juillet, septembre, octobre. Il y a un phénomène de rattrapage qui s'opère. On l'a vu, les taux ont légèrement diminué. Il y a cette tendance à la baisse des taux qu'on entend. Moi, je resterai un petit peu prudent parce que on sait que l'élection de Donald Trump peut avoir des incidences et des conséquences sur l'Europe avec quelques mois d'écart. Donc, restons prudents par rapport à cette baisse des taux. On retrouvera jamais les taux qu'on a connus il y a quelques temps, de l'ordre de 1%. Donc, ce temps-là, il reviendra vraisemblablement plus. Malgré tout, on pense qu'avec des taux qui baisseront autour de 3%, voire un petit peu en dessous, c'est un métier, le nôtre, que l'on sait pratiquer avec ce type de taux. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, les taux étaient à peu près identiques et on savait exercer notre métier. La grande différence, c'est que les coûts de construction et les prix de revient ont augmenté, les fonciers étant rares,
les prix des fonciers,
ont augmenté, et les coûts de construction également. Des petits ratios. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, on construisait en superstructure à 1000 euros et maintenant on est quasiment à 2000 euros. Vous voyez l'échelle phénoménale.
Une inflation sur le foncier, sur les coûts de construction, sur les matières premières qui a été...
Et la quadrature du cercle, c'est faire du logement abordable.
Faire du logement abordable, d'ailleurs l'âge d'accès à la propriété n'a cessé de reculer durant les 10 dernières années.
Exactement.
On a pris quasiment 7 ans par rapport à nos époques. Vous avez rappelé qu'il y a une vingtaine d'années, on était déjà sur des taux d'intérêt entre 4 et 6%. Moi, j'ai connu des taux à 12, voire 13. Ouais. Le temps d'éduquer une population, effectivement, à avoir un coût de l'argent relativement maîtrisé, parce que la période anormale, c'était finalement cette période anormale de baisse, très grosse baisse des taux. Néanmoins, en juin 2024, et en septembre 2024, la BCE a baissé ses taux d'intérêt, ses taux directeurs de 0,25%, ce qui grosso modo fait gagner à peu près 75 points de base sur les taux d'intérêt. Et est-ce que vous voyez, vous, Marc-Antoine, une corrélation entre des banques qui finalement avaient fermé un peu les robinets, pour le dire, et là, qui se remettent à prêter, à vouloir reconquérir une clientèle, puisque bien évidemment, l'accès au crédit pour les banques, c'est un peu une tête de gondole pour amener du client sur d'autres sujets.
Ah, y a un lien direct, c'est évident. Il y a toujours un temps de latence hein, entre la baisse des taux directeurs et la baisse des taux au niveau des banques et donc de la confiance aussi que nos réservataires retrouvent finalement, parce que on a un métier où la confiance des ménages est primordiale pour retrouver nos prospects. C'est-à-dire que dans un monde incertain, les gens préfèrent décaler un projet immobilier plutôt que de se dire un week-end on va aller voir la bulle de vente en bas de chez nous voir si on peut gagner une pièce. Donc il est évident que dans un contexte général, politique, anxiogène, avec des taux qui avaient augmenté, c'est sûr que énormément de nos concitoyens avaient reporté leur projet immobilier. C'est en ça que finalement au mois de septembre-octobre on a retrouvé ces clients qui ont ce besoin parce que la famille s'agrandit. Alors, parfois il y a la décohabitation.
Qui a fait exploser donc la demande de logement. Voilà. Avec la même démographie, on a quasiment doublé la demande de logement à cause des phénomènes de décohabitation.
Exactement. Et on se retrouve dans une situation où finalement les promoteurs ont ajusté l'offre naturellement, puisqu'on a préféré ralentir et ne pas mettre en commercialisation certains projets qui n'étaient pas viables. Et donc on est en train de finalement réduire cette offre. Et si un retour de la demande qui arrive plus vite et qui revient trop fort, on va se retrouver encore dans une situation où il n'y aura pas assez d'offres. Alors on n'y est pas encore.
Mais c'est le risque majeur,
identifié. Quand je vois qu'on a encore une baisse des obtentions des permis de construire et des mises en chantier, on a une année 2025, une année 2026 en termes de production qui va être très très asséchée.
Absolument. Alors justement, dans ce contexte qui est un contexte morose, il faut le dire, il faut trouver des leviers. Il faut être résilient parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est entrepreneur, parce que effectivement, on doit aussi, bien évidemment, je dis juste que 85 000 emplois ont été détruits, hein, quand même. On en est déjà là. Hein. Olivier Salaron, le président de la FEB, qui a communiqué très lourdement sur le sujet, et il a eu raison. Je voudrais qu'on prenne cette idée. Et vous avez un exemple très opérationnel à nous donner. On a à peu près 54 millions de mètres carrés en bureaux, environ. C'est la plus grande zone de bureaux en Europe, pour être très clair. On estime juste en Ile-de-France l'équivalent d'entre 2 millions et demi, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, entre 2 millions et demi et 3 millions de mètres carrés obsolètes sur des bâtiments qui sont impropres à la location. Mais vraiment impropres à la location, puisque les normes, le décret tertiaire d'ailleurs maintenant qui vient d'être mis en place, environnemental, et surtout les usages. Les clients n'en veulent plus, voilà. Et les coûts de rénovation sont trop élevés. Et peut-être qu'il faut se poser la question du trop plein de mètres carrés
de bureaux,
qui est un gâchis en mètres carrés. D'ailleurs, je recommande un livre qui s'appelle « Les mètres carrés gâchés » par Éléonore Slama, adjointe au maire du 12e arrondissement, qui justement parle de ce sujet. Et vous chez EFH, vous êtes innovant, très innovant. Vous avez pris à bras le corps la transformation de bureaux en logements.
Tout à fait. On a un exemple très concret à Jouy.
Absolument. Et on a, j'allais dire, de presque iconique, totémique, on a cette opération à Jouy-en-Josas. Parlez-nous-en.
Alors, Jouy-en-Josas, c'est vraiment une opération exemplaire. Pourquoi ? Parce que on était confronté à une situation de blocage, comme souvent sur des projets immobiliers, on a rarement la solution tout de suite. On avait imaginé un projet de réhabilitation déjà, donc on était déjà il y a 2 ans.
Qui changeait de destination ?
Qui changeait de destination, voilà. D'accord. Donc un actif
un
de bureau
au départ.
Voilà, exactement. Un actif de bureau désuet, un louable et surtout un vendable. Donc on s'est posé la question de la transformation assez naturellement. Alors, ce qui est très important quand on transforme les bureaux, c'est de s'adjoindre les services d'un architecte et d'un très bon architecte. Et là, en l'occurrence, DGM, Antoine Delaire a fait un travail absolument magnifique. Il nous a aidés aussi, parce que c'est souvent un travail d'équipe, à concevoir une transformation de ces bureaux en logement, dans une qualité architecturale qui est tout à fait magnifique, faut le dire. On a des matériaux nobles, on a créé des percées, on a découpé, on a façonné les bâtiments de bureaux, on a requalifier certaines circulations
verticales.
Est-ce
que vous avez déconstruit ?
On a un tout petit peu déconstruit pour créer
déconstruit. Vous avez gardé finalement le cadre. Est-ce souvent, que vous avez aussi réemployé les matériaux ?
On a réemployé les matériaux. Ce qui est souvent le cas dans les bureaux, c'est que c'est souvent des bâtiments très longs, très épais. Donc on a grignoté, on a ciselé, on a créé des failles.
C'est génial.
Et on a rajouté des planchers, on a rajouté des balcons, on a voilà, fait quelques pieux pour soutenir tout ça. Et finalement, on arrive avec une solution finale qui est exceptionnelle grâce aussi à l'aide de la FTI. Voilà, on a un montage un peu particulier puisque la foncière de transformation immobilière nous a aidé dans le montage.
Bien sûr.
Et on a donc signé un bail à construction avec eux et donc on a cédé en VFA 59 logements à I3F. Et parallèlement à ça, l'OFS a acheté également un petit morceau de copropriété pour développer le BRS.
Pour faire du BRS.
Exactement.
Combien d'unités vous avez construit?
Alors, on a 16 logements en BRS. Voilà, ouais. Ça va du T2 au T5.
Ouais. Et sur l'opération en global, c'est
combien? On a 75 logements.
Voilà. Et 16 dédiés au BRS.
Voilà, exactement. Et un petit peu de commerce.
Remarquable.
Voilà. Donc, une qualité architecturale magnifique. Une transformation d'un actif.
Une empreinte au sol qui est quasiment la même.
Et une empreinte carbone qui a été réduite par deux si on avait rasé et on avait reconstruit à l'identique.
Sans compter l'impact carbone ultra maîtrisé.
Exactement.
Dans les matériaux de construction et dans l'utilisation de l'énergie du bâtiment.
Exactement.
Vous avez atteint aujourd'hui des codes qui sont aujourd'hui, en termes d'étiquette énergétique, extrêmement intéressantes.
Vertueuse.
On est vraiment sur
la construction de la ville sur la ville.
Voilà, voilà. Sur du BBCA, parce que non, je reprends la terminologie, bâtiment bas carbone.
Bas carbone.
Il y a aussi une association, d'ailleurs.
Bien sûr.
BBCA, je ne sais pas si vous en faites partie d'ailleurs. Oui. L'association dignement représentée par Stanislas Potier. Et c'est vraiment l'enjeu. En fait, il y a trois équations où vous avez coché toutes les cases. Les problématiques de densité, les problématiques d'empreinte au sol par l'artificialisation aujourd'hui qui est maîtrisée.
Exactement.
Parce qu'avec le ZAN aujourd'hui, c'est quand même une contrainte au sol qui est pas évidente à trouver. Une inflation, pour le dire, normative qui a beaucoup pesé sur les modèles de construction et sur les modes constructifs. Et vous avez été en plus innovant parce que vous avez même devancé finalement la norme en allant plus loin.
Plus loin.
Notamment par exemple la récupération de certains matériaux. Vous en avez fait des granulats.
Exactement.
Qui ont permis d'être réemployés
sur
des formules béton bas carbone.
Exactement.
Pour rappeler quand même que être bétonneur, c'est pas un défaut, parce qu'il existe, mesdames et messieurs, des formules bas carbone très très en avance là-dessus.
Exactement.
Vous avez innové aussi en termes de vision perspective.
J'ai oublié un partenaire, alors que je souhaite d'ailleurs saluer et remercier, c'est évidemment l'EPFIF. Parce que l'EPFIF s'était porté acquéreur le temps du montage du projet.
Bien sûr.
Et grâce à la minoration foncière, puisqu'on réalisait du BRS et du social, a permis
établissement public foncier
de 300 euros du mètre carré de SDP. Donc l'équation économique était très difficile, et finalement d'un projet de bureaux désuets, on a réussi à accueillir prochainement des familles qui avaient besoin de se loger. Voilà.
Et donc c'est très vertueux. C'est remarquable. Ce que vous avez fait est un modèle iconique. Et c'est là
que
finalement, vous voyez que votre métier de promoteur
a du sens.
A un rôle citoyen, engagé, pour aussi la vitalité économique du secteur. Et de cela, il faut le retenir. Il faut le retenir notamment vis-à-vis d'un exécutif qui parfois est un peu compliqué sur le sujet. Alors, en contexte de crise, ce sera la dernière question, les promoteurs se sont fixés clairement, bien avant d'ailleurs les injonctions, avec la RT 2012, on a remplacé le T par un E maintenant, on est sur la RE 2020. Ouais. Vous avez été plus loin, ambition de décarbonation de la filière, qui ne veut pas dire finalement réduction du volume d'opérations sur la filière, qu'on précise
si
bien,
là,
puisque la demande de logement est toujours aussi importante. Et je rappelle d'ailleurs également, et vous partagerez, je suppose, ce point de vue, que l'absence de construction neuve pèse gravement sur l'ancien, et ça fait augmenter mécaniquement les prix. Enfin, c'est important. Quels sont les leviers, justement, pour maintenir cette ambition de décarbonation? Et je sais que chez vous, FH, c'est un enjeu majeur.
C'est un enjeu majeur. D'ailleurs, j'en profite pour redonner notre ambition groupe, puisqu'on est vraiment aligné sur la trajectoire 1,5 degré des accords de Paris. On est contrôlé par le SBTI, qui est un tiers qui vient certifier nos modes de calcul pour justifier nos engagements en la matière. Donc ça, à l'échelle du groupe, nous sommes extrêmement engagés sur le bas carbone et la décarbonation de nos métiers. Alors pour l'immobilier, évidemment, c'est les anticipations des réglementations, la RE 2020, la RE 2025 et la 28. Aujourd'hui, ce qu'on conçoit, notamment au niveau de l'aménagement, quand on réfléchit à 10 ans, c'est bien évidemment d'anticiper les réglementations et donc d'atteindre la RE 2025 dans tous nos projets en montage. Donc nous concevons et nous imaginons les logements et notre production à l'aune de cette réglementation anticipée 25-28.
Et vous intervenez sur toutes les classes d'actifs. Hein.
Et on intervient sur toutes les classes d'actifs. Alors sachant que le bureau neuf, certains... moi j'ai même quelques autres chiffres puisqu'on parle de 5 millions de mètres carrés en Ile-de-France, vide.
Alors, votre chiffre est juste, mais en fait quand on parle des 2 millions et demi qui sont vraiment très obsolètes,
dégradés,
on a tout demain la possibilité de le faire. Et c'est vraiment... Il faut le dire, en tant qu'ingénieur STP et bâtiment, vous maîtrisez ce sujet, c'est un vrai gâchis.
C'est un vrai gâchis.
Quand on en est d'accord.
Ah ouais, tout à fait.
Il y a un sujet à l'heure où les Français sont mal logés. Donc je pense que c'est très très bien que vous en preniez le cœur.
Et là où on est légitime à justement étudier finement ces opérations qui demandent de la technicité, la transformation notamment des bureaux en logements,
parce que c'est plus de complexité quand même.
C'est très technique. Ouais, oui. Alors, ça demande de l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique, un savoir-faire immobilier. Alors, c'est vrai qu'on est assez légitime chez FH Immobilier de toucher et de transformer les actifs de bureaux en logement ou en immobilier géré. Et c'est vrai que c'est un levier pour nous qui nous semble très intéressant pour décarboner la production, puisque construire la ville sur la ville, on n'y échappera pas, ça a beaucoup de vertus. Je dois rajouter un petit bémol parce que sinon on va dire c'est tellement facile de... Il n'y a qu'à supprimer, il n'y a qu'à
faucon,
on connaît.
C'est pas aussi simple.
On se rend compte que finalement les actifs immobiliers ne sont pas toujours idéalement conçus pour les transformer, que ce soit en logement. Alors il y a des contraintes techniques qui sont telles que parfois ça rend même impossible la transformation. Donc il faut aussi parfois se dire, il ne va pas falloir hésiter à se dire... Bah peut-être qu'il faut déconstruire.
Je suis tout à fait d'accord. Parfois, il faut simplement raser l'immeuble.
Cette analyse, elle est très importante puisqu'on oriente finalement, on observe, on a les données d'un actif, on va tout de suite orienter sur la destination future et techniquement, on va être capable de dire, voilà, est-ce que ce noyau, on le conserve? Est-ce qu'on le déplace? Est-ce qu'on va rogner la façade? Est-ce qu'on va créer des loggias? Est-ce qu'on va plutôt rajouter des balcons? Est-ce qu'on va surélever? Si oui, de combien de niveaux? Avec quel type de matériaux?
On est vraiment sur de la couture.
C'est de la couture. C'est de la haute couture.
Sur chaque opération.
L'autre levier, et là, on est moins dans la couture, c'est l'industrialisation. Et c'est vrai qu'on a une réflexion.
Alors, vous avez raison sur l'industrialisation. Mais est-ce que vous pensez qu'on prend la bonne trajectoire justement? Par exemple, de l'assemblage hors site, la possibilité de réduire en fait les nuisances avec des modes constructifs plus pérennes, et aussi l'utilisation de certains matériaux. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est haro sur le bois où on dit voilà, il faut à tout prix faire du bois, mais vous êtes plutôt sur un mix matériaux lié à chaque opération et à chaque
production. C'est qu'il n'y a pas une seule solution. Il y a des solutions et il faut qu'elles soient les plus justes et les plus adaptées en fonction des situations. Et il n'y a pas que le hors-site sera magnifique partout. C'est une solution, c'est une très très bonne solution pour beaucoup.
C'est une combinaison, c'est une conjugaison finalement de différentes solutions.
Que nous souhaitons apporter pour décarboner notre production. Ça passera par le hors-site, ça passera par la réhabilitation, par la transformation. Et ce qui rend notre métier tout à fait passionnant parce que ça nous fait beaucoup poser de questions.
C'est très clair. Challenge. C'est très clair.
Et c'est une période qui est intéressante à vivre parce que on est challengé et c'est ce qui est intéressant dans nos modèles de vivre ces instants même s'ils sont douloureux et difficiles parfois.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Jean. Je rappelle que vous êtes le directeur Île-de-France pour FH Immobilier. Vous retrouvez d'ailleurs FH Immobilier sur le site internet, bien évidemment, où on a toutes les informations. Et je vous encourage à voir cette formidable opération de transformation de bureaux en logement, vraiment iconique, très totémique. À jouer en Josas. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Radio Immo. On se retrouve dans quelques instants.
Merci.
Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.